Voilà, bonjour. Alors, ce message est la suite de celui que j'ai fait la dernière fois. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, vous pouvez toujours vous référer à l'enregistrement. Et donc, j'aimerais commencer par relire dans Joël 2, à partir du verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Donc la dernière fois, j'avais évoqué l'état de l'homme avant sa rencontre avec Dieu. Une terre desséchée, un lieu de désolation où la végétation est dévorée par les sauterelles. J'étais moi-même, cette terre desséchée, incapable de m'en sortir jusqu'à ce que, comme un dernier recours, j'ai prié à Dieu et je lui ai dit que j'étais d'accord de devenir un de ses enfants, s'il me montrait qu'il était vraiment vivant, c'est-à-dire capable de venir me rencontrer. Et c'est ce qu'il a fait 4 ans plus tard. Et à ce moment, non seulement moi, mais aussi Brigitte, qui est aujourd'hui mon épouse, étions prêts pour rencontrer notre Sauveur et pour le suivre. Et de terre desséchée que nous étions, sans espérance, sans Dieu, nous sommes devenus des terres irriguées. Dieu a la capacité de redonner la vie aux déserts les plus secs. Dieu est en mesure de remettre droit ce qui est tordu. La seule condition, c'est de vouloir venir à Dieu. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Dieu est le seul créateur de l'humanité. L'homme ne doit rien à personne, à aucune divinité, à aucune philosophie, à aucune figure charismatique, religieuse. Mais il doit tout à Dieu, parce que l'homme est la création de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Le paradoxe, c'est que l'homme est en fait incapable de donner quoi que ce soit à Dieu. À cause de cette incapacité héritée du péché d'Adam. Mais Dieu a permis un moyen de rédemption, un moyen de rachat, un moyen d'enlever le mur de séparation que vous et moi avons construit pour nous éloigner de Dieu. Ce moyen, c'est la croix de Christ. C'est cette lente agonie qui s'est saisie du Messie à mesure qu'il prenait sur lui le péché de l'humanité. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à notre place, par amour. Il a pris sur lui le péché qui devait nous conduire à la mort. Mais il est ressuscité. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Parce que bien qu'ayant pris le péché sur lui, il a été trouvé sans péché en lui. Et c'est pourquoi il est dit que Christ a vaincu la mort et le pouvoir de la mort. Étant revenu à la vie, il s'est d'abord montré aux disciples, puis il est remonté vers le Père. Avant cela, il a envoyé le Consolateur, l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse prendre le relais et enseigner tous les hommes et les femmes sur la terre comme Jésus-Christ avait commencé à le faire avec une poignée d'hommes, les disciples. Dans la première partie de mon message, j'avais dit qu'il n'y avait pas de loi de la repentance, si ce n'est la loi de la croix du Seigneur Jésus. Et la repentance, c'est un nouveau style de vie. Lorsque Brigitte et moi avons fait cette rencontre mémorable avec le Seigneur Jésus, nous étions loin d'être pauvres, tristes, malheureux ou désespérés. Au contraire, nous étions heureux, nous étions en passe de devenir riches, en passe d'avoir une position sociale élevée. Mais en l'espace de quelques heures, nos motivations ont été complètement inversées. Et de la recherche de la reconnaissance du monde, nous avons voulu consacrer notre vie à servir Dieu. Nous étions co-gérants d'une grande surface de papier peint, un peu plus d'un an. Notre magasin était flambant neuf et notre chiffre d'affaires excellent, puisqu'au cours du premier exercice, nous avions déjà dépassé le chiffre d'affaires de notre concurrent. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon stylo pour rédiger une lettre de démission. Et sans attendre, je suis allé la poster. Au retour de la poste, Brigitte était en ligne avec le PDG qui nous appelait pour nous féliciter du très bon résultat que nous avions fait. Au téléphone, je lui ai annoncé notre départ. Dans la foulée, nous avons revendu notre maison, à peine acquise, et quelques mois plus tard, nous étions en Angleterre en formation biblique. Certains pensent que le christianisme est une religion comme une autre, avec ses propres règles, et qu'il suffit, comme dans n'importe quelle religion, de chercher à comprendre les règles et la sagesse qui vont nous permettre de devenir de meilleures personnes. C'est vrai que dans certains cas, le christianisme peut faire penser à cela. Mais là, c'est un christianisme de pacotille. On ne peut devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par la reproduction de rites ou l'observation. Il y a un livre célèbre, L'imitation de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis, qui a été écrit il y a environ 600 ans, qui donne des recommandations sur comment vivre la vie de Jésus-Christ et comment le recevoir au travers de l'Eucharistie. Des millions de gens ont lu ce livre. Il semblerait même que ce soit le deuxième livre le plus vendu au monde, donc après la Bible. Et ces gens se sont cognés sur un mur de désespoir parce qu'on ne peut recevoir la vie de Jésus-Christ par l'Eucharistie. On reçoit la vie de Christ parce que c'est un don de Dieu et que c'est cet esprit qui nous rend capables de vivre comme Christ. C'était le témoignage de l'apôtre Paul dans Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La vie de Christ, c'est une vie nouvelle qui se manifeste naturellement parce que la croix de Christ nous permet non seulement de faire une remise à zéro dans notre vie, mais aussi de recommencer notre vie dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance à Dieu, c'est précisément ce qui nous motivait lorsque nous avons quitté notre travail, Brigitte et moi. L'obéissance, c'est une notion dont le sens et la portée ont été dégradés à cause des abus d'autorité, de la religion, de la politique, de certaines catégories socio-professionnelles qui, à cause de leur pouvoir, avaient toute latitude pour exiger des populations soumission et obéissance aveugle. Les victimes étaient bien souvent les femmes, les enfants, les pauvres, les personnes fragiles. Aujourd'hui, lorsqu'en société, on parle des vertus de l'obéissance, il y a un froid glacial qui s'installe, un peu comme aujourd'hui. Et l'obéissance est perçue, n'est-ce pas, comme quelque chose de désagréable, parce qu'elle est comprise comme une limitation de la liberté, la perte de contrôle sur soi-même. Il y a dans le terme d'obéissance une notion d'inconditionnalité qui fait peur. La peur que l'on devienne la proie de quelqu'un qui va utiliser notre obéissance pour nous manipuler, nous surcharger en choses à faire. Et c'est vrai que ça existe. Mais l'obéissance, ce n'est pas d'abord le respect des règles de Dieu. L'obéissance, c'est un état du cœur. L'obéissance, c'est la pureté des intentions du cœur. Un jour, un homme se rend à l'église. La route est dégagée. Le dimanche matin, dans les capitales européennes, la route est toujours dégagée, n'est-ce pas ? Il roule, plongé dans ses pensées, et par inattention, il brûle un feu rouge. Et juste là, devant lui, il y a un policier qui le siffle et lui intime l'ordre de s'arrêter. Lorsque le policier vient vers lui, il n'y a pas beaucoup de discussion, la faute est avérée. Mais à ce moment, l'homme en tort dit au policier « Je ne discute pas le fait d'avoir enfreint le code de la route et s'il faut payer une amende, je la paierai. Mais sachez que je n'avais absolument pas l'intention de griller ce feu. Alors pourquoi voulez-vous me punir pour quelque chose que je n'avais absolument pas l'intention de faire ?» Le policier lui répond, « Monsieur, c'est la loi. » L'homme lui dit, « Certes, j'ai enfreint la loi en grillant ce feu rouge. Mais je n'ai pas grillé ce feu parce que j'avais envie de le faire. Je ne suis pas contre la loi. Je respecte la loi. Je la trouve bonne et je suis d'accord avec. » Un autre homme roule avec sa voiture tous les jours. Il roule vite. Et malgré les radars, il ne se fait jamais prendre. Cet homme est rusé. Il a dans sa voiture un avertisseur de radar qui l'avertit de la présence des policiers ou des dispositifs de contrôle. Après 40 années de route et des centaines de milliers de kilomètres parcourus, l'homme en fin de carrière a encore tous les points de son permis. Et cette performance lui vaudra les louanges officielles des autorités routières. Selon vous, lequel de ces deux hommes est véritablement respectueux de la loi ? L'homme qui a grillé le feu rouge ou l'homme qui avait tous ses points après 40 années de route? L'obéissance, comme la désobéissance, est un rapport à l'autorité. C'est une façon de communiquer soit la soumission, soit la rébellion. Dans la Bible, l'obéissance, ce n'est pas une posture par rapport à l'autorité, mais une réponse du cœur de l'homme face à l'amour de Dieu. Dans la loi mosaïque, il y avait des dispositions pour l'esclave qui voulait par amour rester définitivement chez son maître. L'esclave juif n'était esclave que pour 6 ans. C'était soit à cause d'une condamnation, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer ce qu'il avait emprunté, soit il se vendait parce qu'il était pauvre, pour ne pas mourir de faim. À la fin de la 6e année, l'esclave qui avait développé des liens d'affection forts avec son maître pouvait choisir de rester définitivement dans la famille. Et pour marquer ce choix, le maître perçait l'oreille de son serviteur avec un poinçon, pour signifier un engagement mutuel, celui du maître envers son serviteur et celui du serviteur envers son maître. Le jour où j'ai dit à Dieu, je suis d'accord pour devenir ton enfant, cela signifiait, Dieu, je décide de te faire confiance. Une confiance absolue, si tu es capable de t'occuper de moi. Et c'était là mon engagement à me faire percer l'oreille. Et lorsque 4 ans plus tard, Dieu m'a visité dans ma cuisine, je me suis immédiatement rappelé la prière que j'avais faite 4 ans avant. Mais aussi, je me suis rappelé des événements qui se sont déroulés durant ce laps de temps, durant cette période. Brigitte et moi avions vu clairement que des choses étonnantes se passaient dans notre vie. Notre travail dans cette grande surface de papier peint n'était pas le fait de nos grandes compétences commerciales. L'annonce à laquelle j'avais répondu précisait que le couple de gérants devait pour l'un posséder le bac et pour l'autre être diplômé d'un bac plus 2 commerce. Brigitte était bac moins 2 et moi j'étais bac moins 6. Nous avons observé d'autres événements se produire par lesquels Dieu s'est fait connaître, de sorte que le jour venu, nous étions prêts à le croire, prêts à le suivre, prêts à le servir de tout notre cœur. Nous étions et le sommes encore remplis de gratitude et d'amour pour un Dieu si grand et si puissant qui avait consenti à abaisser son regard sur nous, deux humains insouciants et rebelles. Les jours qui ont suivi, nous n'avons eu besoin de ne consulter personne pour prendre la décision de tout quitter pour suivre le Seigneur. L'engagement que j'avais fait 4 ans plus tôt avait été facile à respecter. C'était l'engagement d'un cœur qui n'attendait qu'une chose, la confirmation de l'amour de Dieu. Ce jour-là, j'ai tendu mon oreille pour que Dieu y mette son poinçon. Et Brigitte a fait de même. En fait de poinçon, la Bible dans le Nouveau Testament dit que nous recevons un nouveau nom. Vous lisez ça dans Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Seul celui qui le reçoit connaît ce nouveau nom, qui est le reflet de l'intimité entre l'homme et Dieu, entre une âme qui fut jadis un désert, une terre desséchée, et qui aujourd'hui est une terre irriguée, prête à être ensemencée et à porter du fruit. Depuis, nous le suivons, jour après jour. Nous nous attendons à lui pour être ses mains, pour être sa bouche, pour être son rire, son cœur, pour manifester son amour à tous ceux qui veulent bien l'entendre et le voir. Est-ce que nous voulons vraiment voir Jésus ? Qui aujourd'hui veut encore voir Jésus ? Si nous voulons voir Jésus, il faut regarder en l'air, il faut regarder à la croix, mais il faut aussi regarder autour de nous. Parce que Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Lorsqu'on parle de la croix, on parle de la mort et de la résurrection de Christ. On parle de ce qui, aux yeux du monde, représente un mythe, une légende. Personne ne peut prouver que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un mythe. Et personne ne peut prouver, et personne ne peut empêcher des millions de gens de témoigner, comme nous le faisons, de l'efficacité de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Lorsque certains raillent ou méprisent ceux qui aiment et croient en Dieu, ils ne se contentent pas d'être des sceptiques ou des incroyants. Ils se comportent en militants anti-Dieu. Certains cherchent par tous les moyens à nuire à l'œuvre formidable et majestueuse de leur Créateur. Et le message qu'ils veulent faire passer est celui-ci. Plutôt mourir que de donner à Dieu la place qu'il mérite. Les traces qu'ils veulent laisser à leurs enfants, c'est celle d'une génération héroïque qui a réussi à enterrer l'idée même d'un Dieu créateur. En réalité, c'est du suicide. En faisant cela, ils obéissent aux puissances démoniaques que la Bible qualifie de puissances de l'air, desquelles ils sont devenus, sans le savoir, les marionnettes, si ce n'est les esclaves. C'est la corruption de la pensée de l'homme qui le pousse à défier l'ordre naturel des choses. Il y a dans ce monde des hommes et des femmes qui refusent de voir la perfection de Dieu, la perfection de la création, et ils s'emploient à le détruire, à détruire la création, à dénaturer la création, parce qu'ils veulent croire au hasard plutôt qu'à Dieu. Dans son évangile, Jésus déclare que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'offense et la rébellion contre Dieu, c'est affirmer que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est du mensonge. Et que tout ce qui sort de la bouche de l'homme a valeur d'autorité. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus faisait des miracles devant les religieux de l'époque. Il disait... Il fait des miracles par la puissance de Belzébul. Ils ont inversé les choses. La vérité est devenue mensonge. Et le mensonge est devenu vérité. C'est du suicide. Certains disent que si les choses en sont arrivées là, c'est par la faute des abus de la religion. Certes, les abus de la religion sont avérés. Des hommes et des femmes ont mal agi au nom de la religion. Et on a tué au nom de la religion. Mais Dieu n'a que faire de la religion, fût-elle chrétienne. Dieu n'est pas le Dieu d'une religion. Il est l'auteur et le Dieu de sa création. Il est le Dieu des hommes et des femmes de la terre. Mais parce que un à un, les hommes et les femmes de cette planète se sont prononcés contre Dieu, ils l'ont jugé. Sans vouloir le connaître, et leur perte, ils courent à leur perte s'ils persistent à le rejeter. Et ce ne sera pas le fait de Dieu, mais la conséquence du refus de rechercher la vérité et la connaissance de Dieu. Bien-aimés, Dieu n'est pas dans la religion. Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Et si on veut en savoir plus sur Christ, eh bien, on peut lire la Bible. Et si on veut le voir, eh bien, ce sont les gens simples, remplis de l'Esprit de Dieu, qui vous le feront rencontrer. Un jour, je lisais la Bible que je tenais dans une main, et entre mes doigts, dans l'autre, je tenais une cigarette que j'étais en train de fumer. C'était le début de ma conversion. Et j'ai soudain senti comme si on me prenait la nuque et avec douceur, on m'inclinait la tête d'abord vers la Bible, puis vers la cigarette. Vers la Bible, puis la cigarette. Et là, j'ai compris que je devais faire un choix entre ces deux choses. La Bible ou la cigarette. J'ai fumé ma première cigarette à l'âge de 6 ans. Dans le quartier, j'avais un copain avec qui je jouais le jeudi après-midi. Sa maman était absente et ce jour-là, il m'a emmené chez lui. Et dans l'armoire du salon, il y avait une grande armoire qu'il a ouverte et on pouvait voir sur l'étagère du haut qu'elle était remplie de cartouches de cigarettes. Quelques instants plus tard, nous étions installés sur le balcon en train de fumer. Je me rappelle que c'était des cigarettes très jolies, toutes fines, longues, avec des motifs dessinés dessus, comme il s'en faisait à l'époque pour les couturiers, les grands défilés de mode. À partir de ce jour, et malgré la correction monumentale que j'ai reçue en rentrant à la maison, j'ai saisi chaque occasion qui m'était donnée pour fumer. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà plus qu'un fumeur occasionnel. De sorte que quand ce jour-là, Dieu m'a demandé de choisir entre la Bible et la cigarette, il ne me demandait pas de faire des efforts surhumains pour arrêter de fumer, mais il me demandait de lui faire confiance. D'avoir foi en lui pour être délivré d'une addiction qui était déjà bien établie, puisque je fumais déjà depuis plus de 10 ans. À cette époque, je fumais 40 cigarettes par jour. Et le week-end, en 2 jours, j'étais capable de fumer une demi-cartouche, soit plus d'une centaine de cigarettes. Mais ce jour-là, avec Brigitte, nous avons décidé d'arrêter de fumer. Nous avons ramassé les cendriers, les briquets, les allumettes et les paquets de cigarettes que nous avions en reste, et nous avons tout jeté. Nous nous attendions à devoir mener un dur combat. Alors nous sommes passés en pharmacie pour acheter des cigarettes à l'eucalyptus. C'était à l'époque la seule façon d'aider les fumeurs qui voulaient arrêter de fumer. Mais en réalité, nous n'avons pas eu besoin de ces fausses cigarettes parce qu'en moins d'une semaine, la chose était réglée. Dans les évangiles, vous lisez les miracles que Jésus a accomplis. Et vous remarquerez que, de façon quasi systématique, Jésus demande aux personnes d'accomplir quelque chose, un geste, une action, de sorte que la guérison puisse avoir lieu. Dans Jean 5, à un homme grabataire depuis 38 ans, Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Dans Matthieu 12, il dit à un homme qui a une main sèche, « Étends ta main ». Il étendit sa main et elle devint saine. Dans Jean 9, Jésus donne la vue à un aveugle de naissance. Il lui met de la boue sur les yeux, puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ces personnes qui ont été guéries l'ont été sur la base de leur obéissance à la demande de Jésus. Jésus leur a demandé de faire non pas quelque chose d'héroïque, mais quelque chose d'impossible. Quand on est grabataire pendant 38 ans, on ne peut pas marcher. Quand on a une main sèche depuis la naissance, on ne peut pas étendre sa main. Quand on est né sans l'appareil visuel, on ne peut pas voir. De la même manière, c'était impossible pour un accro au tabac d'être libéré en quelques jours. Mais Dieu, Jésus a dit, arrête de fumer. Et je te délivrerai de ton addiction. Et c'est ce que nous avons fait. C'est pas que Dieu ne peut pas nous guérir malgré nous. Il peut le faire. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il faut que vous et moi nous arrivions à croire en lui. Non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Et c'est ce que l'apôtre Paul appellera plus tard l'obéissance de la foi. Dieu demande l'obéissance, non pas à un ensemble de règles, mais à une loi que Paul appelle la loi de la foi. Et c'est à cela que nous devons obéir. L'obéissance que Dieu demande à l'homme, c'est celle de la foi dans sa grâce. L'obéissance de la foi dans sa bonté. L'obéissance de la foi dans sa volonté. Cette volonté qui est de me sauver, qui est de vous sauver, qui est de sauver l'humanité. Pour cela, Dieu, au travers de ses enfants, va chercher les hommes et les femmes de la terre, un à un. Il veut que vous et moi soyons de ceux qui manifestent l'amour de Christ, pour que le monde croie que Jésus est le Messie envoyé de Dieu. Ce que Dieu voulait nous dire au travers de la délivrance de l'addiction de la cigarette, c'est qu'il a le pouvoir de nous délivrer de l'addiction du péché, de nous faire recommencer notre vie à zéro, de changer notre mentalité, de changer nos envies, de changer nos besoins. Dieu a la puissance pour faire cela. C'est lui qui est le Créateur. Et il est vivant pour accomplir ça dans nos vies et dans les vies de tous ceux qui veulent venir à lui. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes libre ce matin? Est-ce que votre cœur déborde de joie? Est-ce que vous avez été délivré de l'addiction du péché? Jésus seul sauve. Jésus seul libère. Jésus seul est monté sur la croix pour prendre votre péché afin que vous soyez pardonné, réconcilié avec Dieu. Jésus seul a vaincu la mort. Et c'est Jésus seul qui vous remplit du Saint-Esprit afin que vous puissiez vivre une vie nouvelle et manifester aux yeux du monde les merveilles de Dieu jusque dans la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.